Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour cette première émission de l'année 2019. Il est donc encore temps de vous présenter mes vœux de bonheur et de réussite. Mais qu'en sera-t-il en 2019 pour l'Europe? Le fait est que nous n'avons jamais autant parlé d'Europe qu'au cours de ces derniers mois. Et avec les élections européennes de mai prochain, l'Union européenne sera forcément au cœur de l'année 2019. Mais à quoi ressemblera l'Europe à l'issue de ce scrutin? Avec une vague populiste qui partout ou presque s'affirme, les partis europhobes arriveront-ils à remettre en cause la construction européenne? Quel sera l'impact du Brexit sur les Européens? Un effet repoussoir, tant ce divorce est difficile à mettre en œuvre, ou au contraire, suscitera-t-il une envie d'imiter les Britanniques? Enfin, quel rôle pourra encore jouer Emmanuel Macron, le plus européen des 27, mais aujourd'hui affaibli par le phénomène des gilets jaunes? Voilà quelques questions parmi d'autres que nous allons aborder avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes consultant en affaires européennes et le président du mouvement européen de France. Il est toujours bon de rappeler ce que c'est que ce mouvement européen.
C'est un mouvement de militants bénévoles, plusieurs milliers, qui fête d'ailleurs ses 70 ans cette année.
À peu près comme l'Europe.
Voilà, après le congrès de La Haye, il s'est formé et donc qui milite pour faire de la pédagogie sur l'Europe en France, organiser des débats contradictoires, et Dieu sait qu'on va en faire cette année, en amont des élections, et puis aussi faire des propositions pour améliorer et construire cette Europe.
Yann Saltoff, bonjour. Vous êtes le directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. Un petit mot sur cette fondation.
Oui, bonjour. La Fondation Heinrich Böll, c'est une des fondations politiques de l'Allemagne et c'est un centre de réflexion. On travaille sur des questions franco-allemandes, la relation franco-allemande. On travaille sur des questions européennes et aussi beaucoup sur des questions liées à l'écologie.
Car on peut le dire, la Fondation Heinrich Böll est proche du mouvement des Verts, les Grünen.
C'est ça le principe des fondations politiques en Allemagne. Et toujours, ce sont des fondations qui sont proches d'un mouvement et nous, on est proche du mouvement des Verts.
Oui. Mathieu Gallam, bonjour. Vous êtes vous aussi le directeur d'une fondation. Elle s'appelle la Fondation Charles-Léopold Meyer. Et c'est joli, pour le progrès de l'homme. Quelle est cette fondation qui peut-être pas si connue que ça?
Non, parce que c'est une fondation privée de droit suisse. Et qui soutient des acteurs qui font du plaidoyer sur les thèmes de l'écologie, de la justice sociale et également de la démocratie. Et à ce titre, nous soutenons un certain nombre de mouvements européens pour une plus grande démocratisation de l'Europe.
Et par ailleurs, vous venez de publier La France contre l'Europe aux éditions Les Petits Matins. Alors, faut bien, c'est La France contre l'Europe, c'est pas les Français contre l'Europe. Il y a une nuance importante, on en dira un mot à un moment au cours de l'émission. Alors Yves Bertoncini, les années se suivent et ne se ressemblent pas. L'an dernier, à pareille époque, avec notamment un président français flamboyant dans sa conviction européenne, on saluait une France de retour en Europe et une Europe offrant une alternative crédible entre des États-Unis repliés sur eux-mêmes et les pays totalitaires où il ne fait pas forcément bon vivre, à commencer par la Chine, mais on peut évidemment aussi citer la Russie. Alors aujourd'hui, Yves Bertoncini, s'il fallait résumer en quelques mots la situation de l'Europe, en quelques mots introductifs, car nous avons près d'une heure pour en débattre, qu'est-ce que vous diriez tout de suite?
Si on regarde les choses du point de vue européen et non pas seulement du point de vue français, parce que là on serait peut-être un peu plus pessimiste, moi je dirais que l'Europe va être confrontée à une année clé qui en plus va être une année électorale autour des élections au Parlement européen, des changements institutionnels, nouvelle Commission européenne, etc., etc. Ça sera une année fatidique de plus. Peut-être une année d'après-crise, puisque quand même, dans les dernières années, on a connu la crise de la zone euro, enfin, qui découlait d'une crise économique et financière dont on voit bien qu'elle est en grande partie derrière nous. Ça sera aussi une année d'après-crise migratoire, parce que les flux migratoires qui arrivent, les flux de réfugiés, les flux de demandeurs d'asile, se sont considérablement réduits, même si, du point de vue politique, les effets de ces crises ne se sont pas complètement dissipés. Donc, ils pourraient encore, évidemment, se manifester au cours des prochains mois, dans un contexte géopolitique qui, lui, va rester instable. Et au fond, le drame de l'Europe, en tout cas le défi de l'Europe, c'est que nous n'en avons plus la maîtrise réellement de notre destin. Vous avez parlé de Donald Trump d'un côté, les États-Unis ne nous soutiennent plus vraiment, la Russie de l'autre, au sud le chaos, le terrorisme islamiste qui peut nous frapper et qui peut-être malheureusement nous frappera encore. Donc, dans ce contexte-là, un défi pour les Européens, qui est de savoir s'ils vont continuer à se diviser, comme ils ont pu le faire dans le passé récent, ou si ils vont mettre l'accent sur leur unité. Je note à cet égard un signe encourageant. On a commencé l'année en célébrant les 20 ans de la création virtuelle de l'euro, et que le taux d'approbation des opinions publiques sur l'euro est à un niveau historique. En France, c'est 72% qui sont attachés à l'euro. Donc il y a quand même des ferments, y compris populaires, d'adhésion à l'Union européenne. Les Britanniques font exception. C'est plutôt un repoussoir, en plus, effectivement, ce qui leur arrive. Mais pour autant, toujours les ferments d'une forme de crise de copropriétaire, crise de colocataire. Et nous verrons bien de quel côté la balance penchera en 2019. Vous comprenez, dans la façon dont je pose la question, quel serait mon souhait.
C'est clair. Jens Althoff, la situation de l'Allemagne vue d'Allemagne, est-ce que vous avez un diagnostic assez comparable à celui que vient de nous dresser Yves Bertoncini?
Je crois vraiment cette année 2019, c'est une année décisive pour l'Europe, parce que c'est l'année, on sait bien, des élections européennes, c'est l'année où va se former une nouvelle commission, donc c'est vraiment une année où politiquement ça va pas être la possibilité de bouger beaucoup, mais pour les années après, ça va être décisif pour la question, est-ce qu'on peut renforcer l'Europe, mais renforcer aussi dans une idée de le faire plus démocratique, plus social ou pas. Ça, c'est quand même une question vraiment clé. Et aussi, vu de l'Allemagne, bien sûr, la question qui occupe aussi l'Allemagne beaucoup en ce moment, c'est la question à quel point est-ce qu'il va y avoir une montée encore des forces vraiment d'extrême droite, des forces de droite radicale, parce qu'en Allemagne, c'est aussi une année où vous avez 3 élections régionales dans des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est, où quand même il risque qu'il y avoir des résultats assez forts et très très fort pour l'extrême droite, ce qui va mettre vraiment en difficulté et toutes les autres forces encore de former un gouvernement ou pas.
Mathieu Callam, votre regard sur l'Europe de 2019 en quelques mots?
Évidemment, on n'échappera pas à la question des élections. Maintenant, elles sont un très fort moment, je crois, dans l'agenda pour mettre en débat les objectifs qu'on veut donner à l'Europe, mais également les moyens qu'on veut lui donner et éventuellement les institutions. Je rappelle quand même que l'Union européenne est une institution très faible. C'est pas un État. C'est d'abord les conférences intergouvernementales qui changent, et les élections ne vont pas changer ni le gouvernement en Hongrie, ni le gouvernement en France, ni le gouvernement en Pologne, ni le gouvernement en Allemagne, fondamentalement, ni le gouvernement en Italie ou demain en Espagne. Donc la question sera l'interaction entre le niveau européen et la manière aussi dont les gouvernements vont résoudre les crises actuelles. Simplement, c'est un cadre fragile. C'est un cadre fragile face à des enjeux mondiaux qui, eux, sont croissants. Je suis assez pessimiste sur la question économique, à vrai dire. Je pense que ce que nous disent le FMI et la Banque mondiale peuvent nous rendre très pessimistes. Et s'il y a une nouvelle crise économique, alors je ne sais pas comment l'Union va réagir.
Est-ce qu'elle s'y est préparée, même s'il y a eu des efforts, des pas qui ont été accomplis depuis la dernière crise de 2008. C'est pas totalement le sujet de cette émission, mais on pourra évidemment y revenir. Avec les élections européennes qui auront lieu donc fin mai, l'autre grand dossier qui figure à l'agenda, c'est bien sûr le Brexit. Un feuilleton sans fin qui connaîtra un nouvel épisode normalement mardi prochain dans 2 jours, avec le vote ou non à la Chambre des communes de l'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, plus connu sous le nom de Brexit. Alors une première remarque, Yves Bertoncini, c'est que c'est pas facile pour un pays membre de l'Union européenne de la quitter. C'est pas que ce soit interdit, qu'il y a un veto. Ça, évidemment, pas de problème. On peut choisir de quitter l'Union européenne, mais c'est pas facile, tant les économies sont imbriquées les unes dans les autres, et tant finalement les habitudes de vie commune sont finalement très présentes.
Oui, vous l'avez dit, l'Union européenne n'est pas une prison. Sa porte est ouverte. Ça s'appelle l'article 50. Les Britanniques ont choisi de déménager, de quitter la maison. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où ils veulent aller habiter et qu'ils n'avaient de surcroît pas pris conscience des coûts du déménagement. Leur difficulté, c'est qu'il y a plusieurs Brexit en réalité. Pour arriver à ce score de 52% en faveur du Brexit, il y a une coagulation de différents modes d'expression populaire. Et pour schématiser, même s'il y avait un point commun qui était de reprendre un peu sa souveraineté par rapport à l'Europe, le continent Bruxelles, il y avait quand même un Brexit qu'on va dire protectionnistes, notamment issus des classes populaires, qui pensaient qu'il y avait trop de concurrence, y compris européenne, trop de libre circulation des travailleurs, pas assez d'accès aux services publics, d'un côté. Et puis de l'autre, un Brexit plutôt libéral, alors en France on dirait ultra-libéral, qui pense que l'Europe c'est l'Union soviétique, il faut reprendre sa liberté et faire des grands accords commerciaux avec les zones de croissance dans les pays émergents et les pays de l'ex-empire. Et donc c'est difficile de réconcilier ces deux visions du Brexit pour savoir dans quelle nouvelle maison les Britanniques vont habiter. Ça l'est d'autant plus que tout cela, depuis le début, est pollué par des arrière-pensées politiciennes, des luttes de pouvoir assez pathétiques, je trouve, au sein du Parti conservateur, des personnages qui dansent au-dessus d'un volcan et qui sont en train de jouer le sort de leur pays à la roulette russe, parce que si jamais les Britanniques n'arrivent pas à s'entendre pour un retrait ordonné, alors il y aura un retrait, hein. C'est pas une prison, on sort. Mais ça sera un retrait désordonné. Et compte tenu de l'interdépendance dont vous avez parlé, l'interdépendance économique humaine, ça créerait des dommages assez considérables. D'abord pour le Royaume-Uni, mais aussi pour nous, et en particulier la France, puisque nous sommes voisins, et que beaucoup auraient à en souffrir. Donc il faut espérer, peut-être prier, pour que la sagesse l'emporte au cours des prochains jours et prochaines semaines, et qu'au moins on ait un retrait ordonné le 30 mars au soir, et qu'on prenne ces deux années de transition jusqu'à 2020 pour négocier, ce qui sera encore plus difficile, la relation future. Consommons le divorce et puis voyons ensuite ce qu'on pourra discuter et quelles nouvelles relations on pourra établir pour gérer cette interdépendance.
En tout cas, Pascal Lamy, l'ancien commissaire européen, l'ancien directeur du FMI, a une bonne formule quand il parle du Brexit. Il dit que ça consiste à sortir l'œuf de l'omelette, et c'est pas facile. On n'a pas conscience, les Européens n'ont pas forcément conscience à quel point l'imbrication réelle, à quel point on est lié à travers une multitude d'accords qui nous facilitent la vie au jour le jour, que ce soit le décollage des avions, le passage des trains ou le passage des marchandises et ou des hommes à la frontière, et on n'en est pas toujours conscient, c'est devenu naturel, et finalement quand on se pose la question, c'est assez compliqué d'arrêter tout ça.
Oui, effectivement, là-dessus, il y a une intégration des économies, mais on peut très bien être très intégré économiquement, c'est le cas de la Suisse, typiquement, sans faire partie du club. Moi, ce qui m'a fasciné dans le Brexit et les difficultés qu'a eu Mathilde, c'est que le problème central a été un problème très interne, qui était celui de la frontière de l'Irlande. C'est-à-dire que la question se pose, que se serait-il passé dans le cas du Brexit s'il n'y avait pas eu cette frontière terrestre? Donc ça, c'est très intéressant, ça, parce que ça montre l'interaction, l'imbrication entre des enjeux qu'on peut considérer comme locaux, c'est-à-dire encore qu'effectivement, il y a cette question du possibilité des gens de passer une frontière au quotidien, qui font écho à de l'histoire longue et la relation très compliquée de l'Irlande au reste du Royaume-Uni, etc., etc., avec une décision qui est de sortir du club de l'Union européenne. Donc, si on analyse, c'est assez fascinant ce sur quoi a chopé finalement la première ministre.
Alors, Jens Althoff, ce qui est le plus probable à l'instant où nous parlons, c'est effectivement le rejet de l'accord par la Chambre des communes. Alors, c'est un tel feuilleton, le Brexit, qu'on ne peut difficilement prédire quelque chose. S'il y a un rejet de l'accord, on se rapproche d'un Brexit sans accord, c'est-à-dire très dur, et avec les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, d'un État tiers à l'Union européenne, c'est-à-dire le minimum du minimum. Le politiquement correct consiste toujours à dire « Ah, ben, nous regrettons le départ de nos amis britanniques et ils resteront toujours européens, très près de nous, près de notre cœur ». Est-ce que finalement, c'est une bonne façon d'aborder les choses? Les Britanniques ont été un poids dans la construction de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas une bonne chose qu'ils partent une bonne fois pour toutes sans accord?
Bon, non, je crois pas du tout. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il faut quand même voir. Il va y avoir pour la première fois des élections européennes sans la Grande-Bretagne. Parce que depuis qu'il y a des élections européennes, depuis 79, il y avait toujours la Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et je peux vous dire aussi, surtout un peu plus du côté allemand que du côté français, aussi économiquement, c'est vraiment pas une très bonne nouvelle. Pas du tout. Justement.
Donc, mais au là, niveau de la prise soucis, de conscience, a... au niveau de la prise de conscience des Européens qui ont du mal à voir le côté positif de la
justement de l'Union là, je voulais dire, il y a une chose que je trouve quand même très positive. Si on peut trouver des choses positives là-dedans, il me semble qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, qui est vraiment positive. Il y avait beaucoup de soucis que ça va diviser l'Europe. et le reste de 27 membres de l'Union européenne. Et c'est pas le cas. Ça déjà, c'est une très bonne nouvelle, c'est très très important que eux ils ont été vraiment restés ensemble pour tout ça et que les problèmes ils sont surtout côté la Grande-Bretagne et pas côté au sein de l'Union européenne. Et vu toutes les divisions qu'on a au moment, c'est quand même une très très bonne nouvelle déjà. Deuxièmement, je sais pas, peut-être là, je suis aussi trop optimiste sur cette question, mais cet événement si on va avoir une Brexit dur, je crois qu'il va pas être bien, mais ça pourrait avoir quand même un effet de mobiliser pour les élections européennes, justement, en mai, parce que, malheureusement, on voit aussi qu'est-ce que ça veut dire de faire une telle rupture, de faire une Brexit, et il faut pas oublier que, surtout en France, mais dans beaucoup d'autres pays, aussi en Italie, d'autres, eux aussi, ils jouent avec une telle perspective. Donc c'est vraiment une question qui est aussi au cœur des élections européennes. Donc là, on a quand même, c'est pas quelque chose qui est théorique comme c'était avant, quand il y avait le référendum en Grande-Bretagne. Là, c'est très réel, et les gens ils peuvent voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que sont les conséquences, est-ce qu'eux, ils veulent ça ou pas, et pour ça, il faut aller voter, finalement.
Yves Bertoncini, je crois comprendre que vous vouliez réagir.
Oui, alors d'abord sur la métaphore de Pascal Lamy n'est pas bonne à mon avis. J'ai eu l'occasion de le lui dire. Il s'agit pas de transformer une omelette en œuf. Il s'agit de transformer une omelette en œuf brouillé, ce que je peux presque arriver à faire dans ma cuisine sans faire exprès. En d'autres termes, il s'agit de passer d'un statut de membre qui était déjà un statut de membre avec des dérogations à un statut, alors qui ne sera pas sans doute le statut suisse, ni le statut norvégien, ni le statut turc, mais enfin un statut à nouveau sur mesure pour nos amis britanniques. Voilà, c'est ça le défi. Mais faut-il pour cela? Et c'est possible, mais il y aura évidemment des coûts. Et ça, c'est le deuxième point. C'est les coûts sont visibles, pas encore trop d'ailleurs. Quand même, les Britanniques avant le vote étaient en tête des prévisions de croissance. Aujourd'hui, ils sont en queue de peloton. Il y a déjà beaucoup d'investissements qui sont gelés. Il y a déjà des signes d'inflation, etc. Mais c'est encore minimum par rapport à ce qui se passerait effectivement en mars prochain s'il y avait une sortie sans accord. Je crois que tout cela a douché, j'allais dire, les penchants europhobes sur le continent. Et la grande leçon qu'on peut en tirer, j'ai déjà cité les chiffres pour l'euro, mais c'est la même chose pour l'appartenance à l'Union européenne, c'est que, effectivement, les opinions publiques ont pris conscience que, bien sûr, faire partie d'une union, ça a des inconvénients.
Des contraintes.
Bien sûr, des contraintes. Il y a des devoirs et des droits. C'était très fascinant au moment de la crise de la zone euro, parce que la question s'est posée, est-ce que les Grecs vont sortir ou pas? Ils se la sont posée, la question. Et d'autres. Et puis, plus au nord, alors je parle des Allemands, il y a une certaine partie des Allemands qui se disaient, on va peut-être sortir de cette zone, on va en recréer une autre à côté. Donc la question a été posée. Eh bien, il faut le dire, il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes nouvelles, elle a été tranchée. Les Européens sont eurosceptiques, oui, bien sûr, chacun à leur manière. Chacun à leur manière. Il y a une forte dose d'euroscepticisme en France. Mais ce n'est pas du tout le même euroscepticisme que celui qu'on peut trouver en Finlande, par exemple. Mais ils ne sont pas europhobes dans leur majorité. Et les partis extrémistes en ont tiré les leçons, parce que Marine Le Pen s'est cassé les dents sur le sujet. Et j'allais dire, c'est encore plus évident dans les pays qui font partie de l'Union monétaire, de la zone euro. Parce que déjà sortir de l'Union européenne, c'est très difficile, même quand on n'est pas dans l'euro et dans Schengen comme les Britanniques. Mais qu'est-ce que ce serait si on devait sortir de l'Union monétaire? Et donc dans les 19 pays de l'euro, les chiffres sont assez impressionnants, il y a en réalité un regain de faveur pour l'appartenance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que personne d'autre ne déménagera. Mais si on n'est pas d'accord sur les règles de la copropriété, on va quand même continuer à se quereller au cours des prochains trimestres, évidemment.
À patiner, voire à aller dans le mur.
Aller dans le mur, non, parce que on reste à l'intérieur de la copropriété, mais pendant ce temps-là, le monde extérieur qui nous regarde nous quereller, lui, il ne nous attend pas. Et c'est ça qui est le défi des Européens, c'est de regarder un peu par la fenêtre au lieu de se regarder entre eux. Bien sûr qu'on a des différences, on est unis dans la diversité. C'est écrit dessus, j'allais dire, sur le fronton de l'Union européenne. Mais sans aller dans le mur, on reste calfeutré entre les murs de notre maison commune. On ne regarde pas par les fenêtres et il faudrait qu'on regarde davantage par les fenêtres. On le fait parfois sur le changement climatique. L'Europe est plutôt en position de leadership. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels, comme l'a dit la chancelière, il faut qu'on prenne davantage notre destin en main.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. À quoi ressemblera l'Europe en 2019 à l'issue des élections européennes de mai prochain avec cette vague populiste qui partout ou presque s'affirme? Les partis europhobes arriveront-ils à remettre en cause la construction européenne? Quel sera l'impact du Brexit sur les Européens? Un effet repoussoir tant ce divorce est difficile à mettre en œuvre, ou au contraire, suscitera-t-il une envie d'imiter les Britanniques? On a plutôt tranché le débat dans la première partie. Ça conforte plutôt les Européens europhiles. Enfin, quel rôle pourra jouer encore Emmanuel Macron, le plus européen des 27, mais aujourd'hui affaibli par le phénomène des gilets jaunes? Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints au studio 42 de RFI. Yves Bertoncini, il est le président du mouvement européen France, il est aussi consultant en affaires européennes. Yann Saltoff est le directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll, et Mathieu Calame est le directeur de la fondation Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Il vient de publier un livre très intéressant sur la France contre l'Europe, l'idée que finalement la France, Mathieu Calame, elle se dit toujours très 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 européenne, mais tout compte fait, elle ne l'est pas tant que ça, elle a bloqué à plusieurs reprises le développement de l'Europe.
Oui, tout à fait, je crois qu'il faut faire une grande différence entre les déclarations et les actes, hein. Ça ne coûte à personne de dire qu'il est pro-européen. La question, c'est toujours qu'est-ce que vous êtes prêt à donner, quels sont les actes que vous êtes prêt à faire pour le démontrer. En fait, il me semble que la position de la France n'a pas tellement varié depuis l'appel de Cochin de Jacques Chirac. En réalité, la France n'a pas voulu une intégration fédérale de l'Union européenne pour des raisons qui sont liées notamment à ses relations avec son ancien empire. Et là, ça fait écho à ce qu'on a dit précédemment sur le Brexit et cette ambiguïté de l'Angleterre à savoir si elle veut choisir entre l'Europe et le grand large, selon la formule de Churchill. Et je crois que la France n'est pas du tout claire là-dessus, et que depuis 40 ans, c'est le problème. D'ailleurs, moi, je ne pense pas que le traité de l'Élysée soit un traité qu'il faille fêter comme étant un grand moment de l'Europe, parce qu'en réalité, c'est la France a imposé à ce moment-là une relation bilatérale avec l'Allemagne, au lieu de continuer le multilatéral, qui aurait compris de continuer à discuter à plusieurs avec les Italiens, avec les gens du Benelux, etc.
Alors, néanmoins, ce traité va être re-signé. Un nouveau traité de l'Élysée, ce sera le 22 janvier. Janvier de cette année, donc très très bientôt, très solennellement évidemment entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Un petit mot sur votre livre, La France contre l'Europe, il est paru aux éditions Les Petits Matins. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Les Britanniques ne se sont jamais autant intéressés à l'Union Européenne que depuis qu'ils envisagent de la quitter, et le hebdomadaire de Londres, Spectator, le prouve. Il consacre un très long article aux élections européennes, auxquelles, rappelons-le, les Britanniques ne participeront pas, pour expliquer que la charge des populistes pourrait changer la physionomie de l'Union européenne.
Absolument, c'est un magazine eurosceptique qui l'affirme. Avant, le vainqueur des élections européennes, de droite ou de gauche, n'avait que peu d'importance. Dans les faits, le Parlement européen restait le garant de l'objectif de l'UE, à savoir bâtir une union sans cesse plus étroite. Mais cette année, pour le Spectator, les choses pourraient bien changer. Longtemps restés marginaux à l'échelle européenne, les mouvements populistes ont l'occasion de défoncer pour de bon la porte de l'UE. C'est ce que font d'ailleurs Marine Le Pen et Matteo Salvini sur l'illustration accompagnant l'article en question. Au fil de leurs victoires électorales, que ce soit en Hongrie avec Viktor Orban, en République tchèque avec le Premier ministre Andrej Babiš ou en Allemagne, théâtre des percées récentes de l'AFD, ces formations politiques, souvent nationalistes, ont évolué. Elles sont passées d'agrégats de polémistes et d'agitateurs à des ensembles structurés. Au fil de leur succès sur la scène domestique, ces partis ont aussi appris la patience et l'art du compromis. Il ne leur manque en somme plus qu'une chose, un programme commun pour l'Europe. Mais là n'est pas leur objectif, souligne The Spectator. Ils détestent le concept d'unanimité et veulent reprendre le pouvoir à Bruxelles. En d'autres termes, ils sont eurosceptiques, mais pas forcément contre l'appartenance à l'UE. Ils veulent défoncer la porte et non raser la maison, pour reprendre l'image du titre londonien.
Alors, on a évoqué un peu la position des partis eurosceptiques et europhobes. Qu'en est-il des partis traditionnels dans ce débat ?
Eh bien, ils sont à la peine, ça c'est certain. Ils sont poussés dans leur retranchement par les populistes. C'est le cas, pour ne citer que, du parti de droite Forza Italia en Italie et des sociaux-démocrates néerlandais. Et la déroute est telle pour ces partis traditionnels qu'ils se retrouvent bien contraints de remettre en question leur propre approche vis-à-vis de l'UE. À droite, ça se concentre sur l'immigration et la libre circulation des personnes, tandis qu'à gauche, certains partis sociaux-démocrates tentent de survivre, de se réinventer en se déportant un peu plus à gauche, justement. Résultat, là aussi, il y a remise en cause de la liberté de mouvement au sein du bloc, au nom notamment de la concurrence déloyale entre États membres. En résumé, les fondamentaux de la construction européenne sont remis en cause non seulement par les populistes, mais aussi par ceux-là même qui en étaient jusqu'à présent les garants. La tendance, désormais, est à une plus grande demande de souplesse. Mais si l'UE accède aux volontés des uns et des autres, le risque est d'assister à l'émergence d'une désunion européenne, sans doute inévitable, d'ailleurs, remarque The Spectator, si les formations populistes réalisent des scores élevés en mai prochain. 2019 donnera peut-être un coup fatal, conclut cet hebdomadaire eurosceptique, à l'objectif final d'une union sans cesse plus étroite.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Yves Bertoncini, est-ce que les mouvements populistes qui, de toute façon, auront un succès électoral non négligeable, hein, tous les sondages ont tendance à le prouver, on aura évidemment le vote qui sera évidemment décisif, mais c'est une tendance forte qui, je crois, va se réaliser. Est-ce que cette montée des partis populistes risque de remettre en cause cet accord traditionnel, cette alliance traditionnelle que les conservateurs et les sociaux-démocrates ont au sein du Parlement européen? Ils le gouvernent alternativement, et c'est vrai que ça n'aide pas à y voir très très clair entre cette alliance entre la gauche et la droite, où est la majorité, où est l'opposition. Est-ce que la montée des partis populistes risque de remettre encore en cause cet accord qui fonctionne depuis l'existence du Parlement européen?
Compte tenu des règles du jeu au Parlement européen, le scrutin proportionnel au niveau des États membres, les extrémistes peuvent progresser, certes, quoi qu'ils ont déjà fait un score important en 2014. Le Front National était en tête en France, au Danemark, Parti du Peuple danois. Mais, je vous donne un scoop, ils ne peuvent pas gagner ces élections. Ils n'arriveront pas à avoir 50% des sièges à eux tout seuls. Bon. Pourquoi? Parce que ça, vous l'avez dit, il faut bâtir des coalitions au Parlement européen. On n'a jamais vu un groupe qui domine tout seul. Donc, il en faut au moins deux. Et ça, la réponse à votre deuxième question, ce qui pourrait changer, jusqu'ici, ça a été les deux grands groupes, on va dire les conservateurs démocrates chrétiens du Parti populaire européen, et de l'autre côté, les sociaux-démocrates, pourraient bien, oui, perdre leur duopole majoritaire. Ça veut dire qu'ils auraient besoin au moins d'un troisième groupe qui pourrait faire la pointe. Alors le favori, c'est les groupes centristes des libéraux-démocrates. Ça paraîtrait logique, parce que c'est le groupe du milieu. Ça pourrait être aussi le groupe des Verts. Et puis de toute façon, tout cela continuerait à faire l'objet d'une majorité à géométrie variable, parce qu'il faut un contrat de coalition à l'allemande, j'allais dire, pour mettre en place les nouvelles institutions, le nouveau président de la Commission, le Collège, mais ensuite, au quotidien, les votes obéissent à des majorités variables en fonction des sujets. Donc là-dedans, les extrémistes de droite et de gauche pourront, d'ailleurs ils le font, parfois voter certaines initiatives, mais ils ne seront pas au centre du jeu. La seule manière de les mettre au centre du jeu, puisqu'ils ne peuvent pas avoir une victoire institutionnelle, c'est de leur accorder des victoires politiques. Et c'est ça qu'ils recherchent. C'est-à-dire qu'ils influencent, par leur positionnement, les partis de gouvernement traditionnels qui reprennent leurs idées. On a vu d'ailleurs le phénomène en Allemagne, la CSU s'est fortement laissée influencer par Alternative für Deutschland, dont elle n'a qu'imparfaitement endigué la poussée du reste. Une dernière remarque simplement pour dire que, vu de France, c'est un jeu politique donc qui est un peu difficile à appréhender. Au fond, dans votre question, vous dites qui dirige? Oui, parce que nous n'avons pas l'habitude des coalitions de compromis, des contrats de coalition. Nous sommes dirigés par le fait majoritaire, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons un système où un homme qui fait 24% au premier tour de la présidentielle récupère le mois suivant l'écrasante majorité des sièges à l'Assemblée nationale à laquelle il ne rend même pas de compte. Donc on a quand même un système très majoritaire, très personnalisé de surcroît. Et donc oui, dans la culture politique française, il y a une petite difficulté et souvent un inconfort vis-à-vis de ce système européen qui est un système proportionnel et qui est un système de coalition. Mais il faut que nous fassions un effort pour essayer de le comprendre et d'y jouer notre rôle. en envoyant à Strasbourg des députés européens, d'abord efficaces, engagés, et puis qui, si possible, siégeront dans les partis qui seront au cœur de la majorité de coalition et des grandes décisions.
Alors, Diane Saltzoff, Yves Bertoncini l'a déjà un peu expliqué. Ce qui peut choquer les Français au fait qu'on aime bien qu'il y ait un parti majoritaire et une opposition, ça ne choque pas vraiment les Allemands. Et ce système de coalition que l'on remarque, qui existe au Parlement européen, c'est déjà le système qui existe en Allemagne à la tête du gouvernement fédéral.
Oui, et dans beaucoup d'autres pays, d'autres pays aussi, oui, d'ailleurs. En Scandinavie, partout, mais on doit dire, là, c'est aussi une chose qui est importante. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un très haut taux de participation pour les élections européennes, mais il me semble que cette fois, c'est vraiment important, il vaut vraiment la peine d'aller voter. Parce que vous avez eu là une grande coalition, justement, en Europe, depuis 2014, les dernières élections, c'est une grande coalition qui gère Bruxelles. Ça, il faut le dire très clairement, ce sont les sociaux-démocrates et les conservateurs. Il y a quand même beaucoup maintenant des scénarios, des prognoses qui montrent que cette majorité, ça va plus être le cas. Donc là, on va voir une autre forme de coalition. Et justement, ça, c'est une question. Et c'est une question très très importante. Est-ce que ça va aller ou ça va continuer plutôt dans une perspective néolibérale ou est-ce que ça va devenir plus social ? Plus écologique, plus démocratique, c'est des questions qui sont en jeu. Mais il y a aussi un autre point que je trouve très important, parce que on dit souvent ce clivage seulement entre maintenant les anti-européens et les forces d'extrême, surtout d'extrême droite, mais entre eux, il faut voir qu'il y a des très grandes divisions. C'est pas si facile que ça. Je veux dire, déjà là, la semaine dernière, Matteo Salvini était en Pologne. Oui, pour former une sorte de ligne. Mais Kaczynski est l'homme fort de la PiS en Pologne. Il ne voulait même pas être avec lui devant la presse et les médias. Parce que, bien sûr, ils sont divisés dans un point central. Ils sont tous les deux contre l'immigration. Mais l'Italie veut que les autres prennent plus de responsabilités. Et c'est justement ce qu'il veut Pologne. Pas du tout. L'AFD en Allemagne, pour eux, ils sont vraiment très très durs face à la question des critères de stabilité pour l'euro. C'est exactement celle qui est combattue par Salvini et la Lega Nord et aussi Cinque Stelle en Italie. Donc vous avez au sein de cette extrême, des forces d'extrême droite, vous avez un point commun, c'est anti-Europe, et souvent aussi anti-l'euro, ou l'Europe. Mais là, dedans, vous avez beaucoup, beaucoup de divisions et justement pour eux, ça va pas être facile de former un groupe qui peut vraiment agir à Bruxelles finalement.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, 2019 sera-t-elle l'année européenne? Nous sommes avec Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France, avec Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, et avec Mathieu Kallam, directeur de la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Mathieu Kallam, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu quels vont être les grands thèmes des campagnes de cette campagne européenne? D'abord, est-ce qu'elle sera réellement européenne? Est-ce que les Européens auront des thèmes communs? Est-ce que cette élection ne sera pas une élection nationale sous couvert d'une élection européenne, les thèmes qui s'imposent. Jens Althoff vient de développer le thème de l'immigration sur lequel, évidemment, un pays comme l'Italie et la Pologne sont effectivement en total désaccord, même si le thème est central. Les autres thèmes, la fiscalité, une Europe plus sociale, le thème d'une Europe plus sociale, une Europe qui protège, c'est toujours un thème qui revient, en tout cas dans les campagnes, qu'on a parfois un peu de mal à mettre en place.
Effectivement, je pense que le résultat dépendra complètement de l'orientation que prendront les débats. Et ça, c'est la responsabilité des partis majoritaires de savoir s'ils acceptent de rentrer sur le terrain des milieux nationalistes, des partis nationalistes, ou s'ils acceptent d'ouvrir le débat sur quelle Europe sociale et quelle Europe institutionnelle. Et ça, on peut pas le dire au jour d'aujourd'hui. Ça va dépendre complètement de leur comportement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les socialistes, comment les conservateurs vont organiser leur communication, leur discours, s'ils vont accepter de parler de certains sujets qui fâchent et qu'ils ont jusqu'à présent souvent passé sous le boisseau. Mais je pense que élément-là, la stratégie qu'ils auront, qui est pas seulement d'ailleurs une stratégie d'ailleurs, qui est le positionnement qu'ils auront, sera probablement décisif sur le résultat. En gros, on peut dire, et si on lit Hannah Arendt, que le propre des partis fascistes, c'est que ce sont des mouvements. Ils se nourrissent de dynamiques. Ils n'ont pas besoin d'avoir de programme politique et ils progressent d'autant mieux qu'il n'y a pas de débat politique, en réalité. Et ça, c'est la force, est très très bien décrite. D'ailleurs, Mussolini l'avait théorisé. D'une certaine manière, Staline et Hitler ont fait la même chose. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir à l'état pur. Si les autres partis nous produisent disons un débat qui est sans contenu, sans force, effectivement alors il y a fort à parier que la progression des fascistes sera, parce que je pense qu'on est en phase de mouvement néo-fasciste, elle sera déjà forte, elle sera encore plus forte dans les 5 ans à venir. Et d'autant plus, et là je rejoins sur la question du national et du niveau européen, encore une fois que l'Europe est une institution extrêmement faible en réalité. Le pouvoir reste quand même aux mains des gouvernements. Et donc, effectivement, l'enjeu national, la conquête du national, dans beaucoup de têtes, l'emporte sur la question d'avoir un réel débat européen. D'ailleurs, je pense que à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, si on faisait le tour des partis français, la plupart d'entre eux ont une pensée extrêmement faible et peu développée sur ce qu'ils veulent exactement de l'Europe. Et c'est là-dessus, d'une certaine manière, que les mouvements populistes les mettent au pied du mur, en posant la question de savoir quel est finalement l'objectif final de cette construction européenne, de cette intégration encore plus poussée. On voit clairement que les partis nationalistes n'en veulent pas, et même veulent revenir en arrière. Mais la question se pose sur « et les autres ?». Est-ce qu'ils veulent vraiment d'une intégration poussée et quelle forme elle doit prendre?
Yves Bertoncini, on peut imaginer que, outre le thème de l'immigration, le thème de la fiscalité sera un thème important, car il y a des gens qui payent l'impôt, d'autres qui ne le payent pas. C'est le cas notamment des grandes multinationales. Ça avait été dès le départ de la commission Juncker un point fort. Il faut que les entreprises, notamment, payent les impôts là où elles exercent leur activité. Il y a eu des progrès, notamment sous l'impulsion du commissaire Pierre Moscovici, mais on est très très loin d'avoir harmonisé fiscalement l'Europe.
Oui, en effet, Pierre Moscovici, la commission Juncker, des efforts ont été faits, mais c'est délicat, c'est un sujet de souveraineté, et c'est d'autant plus délicat qu'on mélange pas mal de choses. D'abord, il y a la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, ça, évidemment, qu'il faut la mener avec détermination. Il y a eu de levée de certains secrets bancaires, je dis ça en regardant notre ami suisse, mais Luxembourg, etc., au moment de la crise financière, quelques pas ont été faits. Ensuite, il y a des comportements d'optimisation fiscale dont se rendent, j'allais dire coupables, en tout cas responsables, notamment les GAFA, qui arrivent à jouer avec les normes, optimiser, à loger une très grande partie de leurs profits dans des pays comme l'Irlande qui les taxent très très faiblement. Et ça, c'est choquant. Et bien sûr,
de plus en plus pour les citoyens européens, l'optimisation fiscale est un vol.
Oui, absolument. Mais sauf que c'est, attention, l'optimisation, ce n'est pas la fraude. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on arrive à chercher des réponses qui soient adaptées, qui soient donc légales, alors qu'il y a eu des mesures, et y compris la commissaire à la concurrence, avait par exemple forcé le gouvernement irlandais à rembourser 13 milliards d'euros, à demander à Apple de lui rembourser 13 milliards d'euros, parce que ça c'était jugé illégal. Mais il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est comment rapprocher nos taux de fiscalité, comment harmoniser un tout petit peu. Et c'est là que la confusion existe, et qu'elle est malheureusement, je dois le dire, entretenue par la France. Parce que si l'on croit que il faut placer tout le monde sous la même toise en Europe, c'est-à-dire que si tous les Européens, y compris les Estoniens et les Irlandais, n'arrêteront le dumping fiscal que quand ils se mettront au niveau de taxation français, eh bien ça c'est impossible. C'est impossible parce que c'est une loi de l'économie, il est normal qu'une petite île périphérique comme l'Irlande taxe moins les sociétés qu'un grand pays central comme la France. Nous devrions nous en réjouir d'ailleurs, nous Français, parce que nous pouvons taxer nos sociétés de manière élevée, parce qu'elles sont contentes de pouvoir venir sur un grand marché qui d'ailleurs jouxte d'autres grands marchés, qui est bien connecté avec de bonnes infrastructures, de bonnes ressources humaines. Simplement, au lieu de faire ça, nous entamons une contrainte depuis des décennies sur le dumping fiscal, etc. Et ça nous empêche de progresser sur le sujet. Parce que tant qu'on aura à dire aux Irlandais que soit ils se mettent à 25% comme nous, soit ils font du dumping fiscal, il n'y a aucune chance de les convaincre de se mettre à 25%.
Bon, d'accord. Parce que je trouve, comme vous l'avez dit un petit peu, c'est une des grandes défis la question de vraiment lutter contre ce dumping fiscal. Je suis d'accord que c'est pas facile. Je suis d'accord qu'on ne peut pas dire tout le monde doit être au niveau français, mais ça marche jamais comme ça. De toute façon, dans l'Union européenne, il faut toujours trouver un compromis. Mais est-ce qu'on doit vraiment arrêter? Et c'est une grande question. Justement, il y a des forces politiques qui sont là aussi maintenant, qui veulent être plus forts et autres, qui veulent justement arrêter ça. C'est arrêter tout cet enjeu et vraiment, je veux dire, cette concurrence d'avoir une fiscalité le plus bas. C'est ça qui est une catastrophe. Donc celui qui est le plus bas, c'est celui qui gagne. Donc là, il me faut quand même, c'est une grande enjeu aussi pour les élections, de changer ça, justement. Et je suis absolument d'accord que déjà entre la France et l'Allemagne, je trouve, et moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une grande faute que l'Allemagne ne peut pas se mettre d'accord avec la France et pas suivre la France de la question de taxer les GAFA. Parce que l'Allemagne a beaucoup peur que les États-Unis et Trump pourraient faire quand même une réponse assez dure dans d'autres secteurs de l'économie qui va toucher tout d'abord l'Allemagne et pas la France. Mais c'est regrettable. Il y a un grand débat autour de ça en Allemagne, il faut le dire. Il y a beaucoup de forces politiques en Allemagne qui disent il faudrait faire cela. C'est une des questions aussi qui se joue pendant les élections européennes aussi en Allemagne.
Ce que vous avez dit, Jens Althoff, c'est que si les Européens taxent les GAFA, c'est-à-dire toujours des entreprises américaines, il y aura des rétorsions, par exemple, au niveau des exportations voilà. Automobiles allemandes, BMW, Mercedes.
On ne sait pas s'il y aura, mais il y a aussi
alors,
peur.
Je sens que vous avez envie de réagir sur le sujet. Je voudrais quand même dire un petit mot sur ce qui manque aussi dans le camp des pro-européens. C'est un leader, l'espoir porté par Emmanuel Macron s'est brisé sur son exact opposé, les gilets jaunes. Alors, la fin de la taxe carbone, l'augmentation immédiate du pouvoir d'achat, la multiplication des dépenses publiques au prix de déficits qui peuvent être abyssaux. C'est évidemment l'opposé du projet présidentiel de lutte contre le retard français de compétitivité. Est-ce que l'impact d'Emmanuel Macron en Europe, eh bien, il est perdu?
Son étoile a pâli, mais elle brille encore. Mais ce que j'ai voulu dire à travers l'exemple fiscal, c'est que, bien sûr, d'ailleurs, c'est absurde, puisque le marché unique s'est agrandi, il aurait fallu que les pays se mettent d'accord voilà, pour justement. Taxer davantage plutôt que de tirer les taux vers le bas. Mais ce que j'ai voulu dire, voilà. C'est que les Français s'y prennent très très mal s'ils veulent mettre tout le monde à l'équerre. Et j'ajoute, dans le contexte récent, que aussi bien en matière fiscale qu'en matière sociale, puisque ce sont deux thèmes chers aux Français, malheureusement nos résultats ne plaident pas pour nous. Et c'est là où on peut revenir à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était un grand architecte sur les sujets européens. Il a fait des discours à la Sorbonne notamment, avec une vision très ambitieuse, très bienvenue. Ensuite, il est passé aux travaux de maçonnerie, et il y a quand même des progrès, il faut le dire. Il y a eu des progrès, notamment en matière de sécurité collective, défense, lutte contre le terrorisme. Il y a eu des progrès en matière sociale. On a beaucoup parlé de l'encadrement des détachements des travailleurs, des progrès alors sur la zone euro, hein, un peu symbolique, mais enfin, c'est quand même de réels progrès.
Notamment un petit budget de
la zone euro. Forme de budget de la zone euro. Sa difficulté, c'est qu'il a aussi dû passer en mode pompier. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu des crises, il y a eu des tensions avec l'Italie sur le mode migratoire, des tensions, des attentats terroristes, des tensions entretenues par Donald Trump. Et surtout, qu'il doit maintenant être un pompier dans son propre pays. Et donc, c'est vrai que malheureusement, ça lui prend beaucoup plus d'énergie de se concentrer à mettre la maison France en ordre. Et que comme les autres pays européens qui ont pu, pour certains parfois, être un tout petit peu jaloux hein, de ce dynamisme présidentiel français. Maintenant, ils le regardent parfois avec des yeux attristés, parfois avec une forme de joie mauvaise hein, qu'ils ne cachent pas, comme par exemple les amis italiens, hélas. Et donc, ça va rendre sa tâche plus difficile. Mais je dirais qu'il est d'autant plus nécessaire qu'il puisse d'abord remettre la Maison France en ordre, bien sûr, continuer dans son programme de réforme, et puis ensuite reprendre, j'allais dire, son bâton de pèlerin au niveau européen, parce qu'il n'y a pas tant de leaders politiques qui puissent se mobiliser pour réorienter l'Europe.
Le problème, c'est aussi que l'Allemagne n'a pas répondu. Je veux dire, Macron, il a fait vraiment des propositions, et c'est surtout il a attendu que l'Allemagne va aussi répondre, et que les deux, comme locomotive, peut tirer l'Europe.
Mais et là, malheureusement, il y avait seulement une partie. Est un peu en pré-retraite, hein, on peut le dire. Mathieu Calame, Emmanuel Macron, vous qui êtes franco-suisse, donc vous avez un regard à la fois français et un petit peu en dehors de l'Union européenne. Emmanuel Macron a annoncé lors de ses vœux un projet européen renouvelé pour en finir avec le sentiment d'impuissance de l'Union européenne. et pour mieux protéger les peuples. L'Europe qui protège, c'est un thème qui revient souvent dans les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut rebondir en Europe ?
En fait, je suis assez dubitatif parce que je ne sais pas exactement ce que Emmanuel Macron appelle l'Europe. Donc tout à l'heure, il a été évoqué le fait que les anti-européens sont souvent des coalitions disparates. Le problème, c'est que les pro-européens aussi sont des coalitions disparates. C'est que vous mettez trois pro-européens autour de la table, au bout de 10 minutes, vous apercevez qu'ils ne parlent pas du tout de la même chose. Et c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron me dit qu'il est pro-européen, la question qui vient après, c'est quelle Europe ? Et en l'occurrence, je ne crois pas qu'il soit très original. Je crois que son projet, il était assez simple. C'était, il appliquait Hartz-IV en France, et une fois qu'il avait appliqué Hartz-IV
en France,
c'est la réforme du marché du travail, etc. en Allemagne. C'était, il donnait des preuves, il restaurait à ce moment-là ce qu'il considérait être la crédibilité de la France d'un point de vue, je dirais, très Bercy, et il obtenait ensuite quelque chose de l'Allemagne. Mais pour obtenir quelque chose de l'Allemagne, il faudrait d'abord s'intéresser à ce que l'Allemagne veut elle-même de l'Europe. Et là-dessus, je crois qu'il y a une dimension qui n'est jamais abordée dans les débats et que la France ne veut surtout pas aborder. C'est qu'à mon avis, de manière constante, en tout cas la CDU et le SPD, depuis à peu près un demi-siècle, ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement une intégration fédérale qui intègre la question du veto de l'ONU de la France, du statut donc de la France comme grande puissance. Est-ce que ça s'est partagé au niveau européen? Et ça, je crois que Emmanuel Macron ne change pas d'un iota. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il ne peut pas faire de miracle. Il est lié à un système français économique, politique qui est très ancien, qui trouve même ses racines des fois d'une manière séculaire, qui fait que la France-Afrique est là, que le nucléaire est là, et que Emmanuel Macron ne peut faire aucune concession là-dessus. Et ça demande quoi? Ça demande une France qui joue un jeu international parfois extrêmement ambigu.
Voilà, en tout cas, on a bien compris que 2019 sera une année européenne. Sous quelle forme? On verra après les élections. On aura évidemment l'occasion ici au Carrefour de l'Europe d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Yves Bertoncini, Yann Saltoff et Mathieu Calame. Je rappelle le titre de votre livre, La France contre l'Europe, et c'est pas les Français contre l'Europe, aux éditions Les Petits Matins. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Fonso et Sacha Michel de Courrier International. Sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités, pour réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé en podcast ou en balado-diffusion, comme on dit si joliment au Québec, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desescal, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.